Bonjour, je suis Léa Rosamond, je suis responsable du pôle accompagnement au sein du CAP. Le CAP, c'est le centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants à l'Université de Tours. Et j'encadre en fait le conseil et l'accompagnement à la pédagogie, le développement de la formation à distance et des pratiques pédagogiques actives. Mais moi, mon cœur de métier, c'est l'ingénierie pédagogique. Au sein du CAP, je travaille avec une équipe d'ingénieurs et de conseillers pédagogiques. Alors, les profils sont très variés et ça apporte une vraie richesse en termes de compétences et de complémentarité. Et ça permet une véritable coopération pour pouvoir accompagner les enseignants et les autres acteurs de l'université. Au sein du CAP et du pôle accompagnement notamment, les missions sont variées. On travaille sur le développement professionnel des enseignants, on forme à la pédagogie, on forme également aux outils qui sont en lien avec la pédagogie et le numérique dans les usages, et on accompagne les projets avec du numérique ou sans numérique. Je peux dire déjà que c'est un beau métier et il peut prendre différentes formes selon le contexte de l'université. À Tours spécifiquement, les ingénieurs pédagogiques accompagnent les enseignants sur la conception et la réalisation de dispositifs de formation tout distanciel ou encore hybride, mais ils peuvent également intervenir sur la mise en place de l'approche par compétences ou animer des formations. En fait, il n'y a rien de figé.
Je suis Christelle Hervé, je suis responsable du pôle formation au service commun de l'Université de Tours. Et je travaille depuis maintenant 2018, l'année 2018, avec les collègues du Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants, et notamment Léa Rosamond, qui est ingénieure pédagogique. Donc on a monté, grâce à Léa, deux cours en ligne, un sur le plagiat et un autre sur la recherche d'informations sur Internet. Alors, c'est vrai que Léa nous a accompagnés tout au long, en fait, du parcours et du dispositif pour la mise en route, pour l'accompagnement pendant et également des équipes. On était une équipe de 7 personnes. J'assurais la partie coordination, mais Léa était vraiment là pour nous donner des échéances, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait des réunions, on s'était dit, bon, pendant un semestre, une réunion par mois minimum pour faire le point, pour voir où on en était, pour avancer. Et en fait, c'est Léa qui nous, à chaque fois, fournissait donc un calendrier, des échéances et avec des productions, de la production de contenu, d'exercices à faire, d'activités. Et pour chacune de ces activités, elle nous donnait en fait des outils. Donc en fait, en termes d'outils l'accompagnement au scénario même du cours, puisqu'au démarrage, nous, on avait des contenus qui étaient un petit peu disparates. Il a fallu effectivement les réunir en un même endroit pour avoir un cours cohérent. Et pour ce faire, Léa nous a fourni très rapidement un tableau pour chaque module, pouvoir identifier les contenus, les objectifs pédagogiques, les activités, etc. Et donc monter ainsi le scénario complet du cours. Donc ça, c'est vrai que cette partie-là, déjà rien que cette partie-là, sans Léa, on n'aurait pas pu la faire. Nous, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les compétences pour. Et du coup, elle nous a vraiment accompagnés pas à pas pour le montage du scénario, en fait, complet. Ensuite, elle nous a donné aussi des outils pour tout ce qui était syllabus. Puisqu'auparavant, nous, on avait pour chaque séance de formation qu'on fait en général, on a toujours des objectifs pédagogiques avec des compétences adossées. Mais là, ça signifiait quand même aller plus loin, voir concrètement qu'est-ce qu'un syllabus, faire en sorte qu'on ait un modèle qui soit le plus détaillé possible Et qui puisse être transposable. Donc là, par exemple, pour le syllabus, on a fait un syllabus un peu standard, on va dire, pour le cours en ligne sur le plagiat. Pour celui sur Internet, on est passé à l'animation, en fait. Donc, on a aussi une montée en compétences, en fait, de ce côté-là. Et Léa nous a donné vraiment toutes les clés. Donc, en termes de compétences, la taxonomie de Bloom, notamment, voilà, avec un certain nombre de verbes à utiliser pour caractériser des compétences pour des activités. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas auparavant. Donc sur cette partie-là, effectivement, elle nous a vraiment apporté des choses vraiment très essentielles qu'on utilise maintenant systématiquement pour toutes nos formations, quelles que soient d'ailleurs les modalités pédagogiques. On utilise tous ces outils maintenant également, par exemple pour du présentiel, c'est particulièrement utile. On a monté en compétences grâce à elle sur l'utilisation de la plateforme de cours Selen de l'Université de Tours, puisque c'est Moodle qui est derrière. Et c'est vrai que Léa, la première, en fait, nous a montré, donc en guise d'exemple, des cours déposés donc sur la plateforme pour qu'on puisse se familiariser un petit peu avec la forme. Alors là, on a été aidé par d'autres collègues qui nous ont formés sur cette partie-là, mais c'est vraiment Léa qui était à l'origine en fait de cette formation pour qu'on puisse nous monter en compétence et être en capacité aussi de déposer en fait tout type de documents sur Selen. Après, dans les activités proprement parler, Léa, elle nous a fait tous les quiz. C'est-à-dire que les quiz Moodle, ça c'est resté de sa compétence, parce que je disais qu'on était monté en compétence sur Selen, mais pas sur cette partie-là, parce que c'est vrai qu'en fait, les quiz dans Selen, c'est quand même pas très intuitif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ça, c'est Léa qui s'en occupe et qui monte en fait les quiz. Donc par exemple, pour le cours en ligne sur le plagiat, on a produit un quiz de positionnement et un quiz final. Et en fait, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a apporté la matière, le contenu, et en fait, Léa nous disait, voilà ce qu'on peut faire. Nous, on avait la matière, et on voulait, par exemple, le quiz de positionnement. On s'était dit que ce serait bien d'avoir ce quiz pour que les étudiants puissent s'auto-évaluer. Et donc, à chaque fois, Léa nous donnait la forme, en fait, finale, et nous aidait à mettre en place les choses concrètement. Voilà. En termes d'activité aussi, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est la collaboration avec les collègues audiovisualistes, puisqu'on a produit des animations sur le deuxième cours en ligne. Et là, en termes d'outils, Léa nous a vraiment appris en fait à communiquer avec nos collègues de l'audiovisuel. C'est vrai que là, on a besoin d'être guidé quand on fait ce genre de choses. Donc, comment utiliser un storyboard, qu'est-ce qu'on met dedans, comment est-ce qu'on formule les choses. Par exemple, dans une animation, il y a du son, qu'est-ce qu'on veut comme son, etc. Aller jusqu'à ce degré-là. Et c'est vrai que là, pour le coup, elle nous a vraiment accompagnés pas à pas, puisque nous, on n'était absolument pas en capacité, on n'avait jamais fait ça. Et c'est pas notre métier en plus, donc c'est vrai qu'elle a vraiment été à l'interface en fait entre les collègues et nous pour nous accompagner. Moi, ce que je retiens sur l'ensemble, c'est que en fait tous ces projets qu'on a, parce qu'on en a d'autres, on est en incapacité de les faire si on n'a pas l'appui de l'ingénierie pédagogique, puisqu'en fait les contenus on les a. On sait les transmettre en présentiel, en tout cas, ça va à peu près. Mais alors, dès qu'on passe sur d'autres modalités pédagogiques, du distanciel notamment, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que là, les compétences en ingénierie pédagogique sont vraiment très importantes parce qu'elles permettent vraiment une adéquation entre des contenus, ce qu'on veut transmettre en fait au public, aux étudiants, et les modalités elles-mêmes, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà, donc c'est vrai que je trouve, moi, que cette collaboration a été essentielle, l'est encore, et je compte bien poursuivre avec mes collègues ces collaborations avec les ingénieurs pédagogiques.
Le point de départ de l'accompagnement, c'est vraiment l'analyse des besoins. Enfin, ça nécessite en fait qu'on travaille vraiment en partenariat avec l'enseignant, avec le formateur, qu'on soit vraiment à l'écoute et l'on puisse installer un véritable climat de confiance pour être tout au long du projet dans l'échange et dans le partage. Le fait d'être à l'écoute, ça permet en fait de faire une analyse fine des besoins de l'enseignant, du formateur, et de pouvoir lui proposer les outils et méthodes qui vont permettre en fait la co-construction tout au long du projet. C'est aussi en fait le moment où on va définir en fait les compétences qui sont visées, donc quels sont les objectifs pédagogiques, les activités, les interactivités, l'évaluation, tout ce qui doit être mis en œuvre pour construire ce dispositif. On va réfléchir également à ce moment-là aux possibilités qui sont offertes par le numérique, si dans ce cas-là c'est nécessaire, pour pouvoir les mettre en œuvre.
Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, on a l'habitude de préparer des cours, mais qui sont faits pour être donnés en direct, en présentiel. Et c'est vrai que, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'avais pas forcément l'habitude de transposer des cours en présentiel sur une plateforme en distanciel. L'apport des ingénieurs pédagogiques a été crucial de ce point de vue-là. Alors, il y a eu plusieurs raisons à cela. Déjà, dans la première phase, quand j'ai rencontré les ingénieurs pédagogiques, alors forcément, quand on a un cours déjà prêt en présentiel, on a déjà un plan. Mais il n'est pas forcément assez précis pour qu'il soit transposable directement sur un format numérique. Et donc, les ingénieurs pédagogiques sont là pour nous apporter des documents, pour nous apporter des outils afin de mieux clarifier certaines parties pour qu'elles apparaissent de manière beaucoup plus organisée sur la plateforme numérique. C'est des réunions qui se font pour décider combien de séquences, pour décider quels sont les documents qui vont compléter chacune des séquences et les points, les objectifs principaux qui sont liés à chacune des séquences. C'est important pour que l'étudiant repère pour chaque séquence quels doivent être les objectifs. Dans une deuxième étape, une fois que nous avons à peu près l'organisation de ce cours qui va être transposé sur la plateforme numérique, comme Moodle ou Selene, les ingénieurs pédagogiques nous suivent dans la transposition, dans la mise au format. Un cours qui est transposé sur format numérique, le format numérique permet un nombre incalculable de possibilités. Est-ce que ça va être un cours enregistré, audiovisuel? Est-ce que ça va être un PowerPoint amélioré? Est-ce que ça va être juste de l'audio? Etc, etc. Avec peut-être des suppléments, des options. Tout ça est discuté avec les ingénieurs pédagogiques. Donc en réunion et puis après avec des va-et-vient d'idées, des discussions qui vont amener au produit final. Alors dans mon cas par exemple, dans un de mes cours, on avait décidé de faire ça sous format podcast afin que l'étudiant ait un cahier à côté et puisse prendre des notes par lui-même, qu'il suive ce cahier et qu'il s'investisse dans le cours. Pour ce format podcast, donc on avait discuté de l'idée et finalement c'est ce qui a été retenu. Ça prend déjà un certain temps, mais ensuite on s'est dit, mais dans un deuxième temps, pourquoi ne pas le faire à plusieurs voix pour mettre un peu plus de dynamique dans le cours. Donc c'est typiquement ce genre de discussion, de va-et-vient qu'apportent les ingénieurs pédagogiques, des idées, et puis nous aussi on peut apporter nos idées pour trouver le bon format pour les différentes séquences. Dans un troisième temps, je dirais, une fois qu'on a ces parties et puis l'organisation globale avec le format global du cours, l'idée c'est de regarder pour chacune des séquences comment on va articuler les séquences avec les différents éléments supplémentaires qui comportent la séquence. Donc il y a la séquence centrale qui est le cours en lui-même, mais ça peut être accompagné de documents, ça peut être accompagné d'exercices. Et donc évidemment, on peut avoir des exercices au préalable, mais il faut pouvoir aussi les transposer. Est-ce qu'on va les transposer sous forme de QCM, sous forme de jeu, sous forme, je sais pas moi, de lecture avec des commentaires? Toutes ces formes sont possibles. Nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on ne connaît pas la vaste étendue de ces possibilités. On discute avec les ingénieurs pédagogiques, on prépare ou on adapte éventuellement le contenu de ces documents complémentaires. Et l'ingénieur pédagogique, lui, va pouvoir implémenter la partie technique sur la plateforme, sur les plateformes numériques.
Dans le processus créatif, je m'appuie beaucoup sur le scénario pédagogique, qui est en fait le descriptif détaillé et cohérent du cours. C'est un document qui sert de base, un véritable fil rouge tout au long du projet et qui va permettre de co-construire et avec l'enseignant, mais pas seulement, aussi avec l'équipe de production. Ce qui est écrit n'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure du projet. C'est un travail de co-construction tout au long du projet, un travail avec l'enseignant, le formateur, mais pas seulement, c'est aussi un travail avec l'équipe de production. Et là, je prends ma casquette de chef de projet, je suis à l'interface de ce qui a été élaboré dans le cadre du scénario pédagogique et ce qui est réalisé par l'équipe de production.
Eh bien, bonjour, donc, moi c'est Damien Humeau, donc, je suis technicien audiovisuel et concepteur multimédia. Moi, ma fonction au sein de l'université, elle est elle est centrée sur la création en fait, donc la création d'images, de schémas, de visuels en tout genre, et évidemment une grosse partie est associée à l'audiovisuel, donc à la vidéo, au son aussi. Donc on s'occupe des tournages jusqu'à la post-production, de cours en ligne en fait, pour la plateforme numérique de l'université. On travaille avec les ingénieurs de manière très, très rapprochée en fait, puisque ce sont eux qui vont nous amener principalement les projets, donc qui sont des projets surtout de formation ouverte à distance. Hein. Donc on reçoit un projet d'un enseignant ou enseignant-chercheur dans l'objectif de transformer son cours en un objet numérique distanciel. Donc dans cet objet, il y a de la vidéo, il y a aussi des modules de e-learning, donc de quiz, de parties théoriques, tout ça. Il y a des schémas, des images cliquables ou non, beaucoup de choses. Du coup, on reçoit ce projet. Donc nous, on met en place ensuite un temps d'échange avec l'enseignant et l'ingénieur en charge du projet. Et on discute du scénario qui a été établi de base et voir si nous, on peut rajouter des choses, proposer d'autres éléments pour enrichir le cours final, finalement. Et puis ensuite, on va du coup rentrer en production. Donc là, voilà, plein de choses techniques, des tournages, des prises de son, de la création sur l'ordinateur, quoi. Et une fois qu'on a passé la post-production, on va de nouveau être beaucoup en lien avec l'ingénieur et l'enseignant, puisque là, on va rentrer dans une phase d'échange vis-à-vis des modifications à apporter. Donc, c'est-à-dire qu'on a livré une première version. Et donc là, on va rentrer dans un jeu de voilà, modifier quelque chose à cet endroit-là, changer le rythme du contenu, rajouter des images. Voilà. Donc là, on va rentrer dans une période assez plus ou moins longue de changement d'éléments pour arriver à plusieurs versions du produit. On peut arriver jusqu'à 10 versions. Bon, voilà. Et à l'issue de ça, quand tout le monde est satisfait du projet, eh bien on publie, donc on diffuse sur le système interne de l'université qui est ensuite un relais vers la plateforme qui est accessible aux étudiants.
Avec l'équipe de production, je prends en fait ma baguette de chef d'orchestre pour mettre en musique ce qui a été scénarisé, storyboardé, scripté. L'équipe de production, elle est force de proposition, donc il y a souvent des allers-retours. Je prends en compte les propositions techniques qui sont faites. Je fais en sorte d'avoir toujours un regard sur les délais de production quand même, parce qu'il faut quand même les tenir. Moi, il m'arrive également de médiatiser, je crée des quiz, je prête ma voix, je peux aussi réaliser des tutoriels vidéo, par exemple. Alors, je travaille en étroite relation avec la direction des systèmes d'information et notamment l'équipe technique qui est en charge de la maintenance et de l'évolution technique de notre plateforme pédagogique. Quand on crée un dispositif et que ce dispositif comporte par exemple un outil externe, c'est important de pouvoir tester la manière dont il va s'intégrer sur la plateforme. Donc là, il y a vraiment des phases de test qui ont toute leur importance.
Alors, sur la partie évaluation, on ne le fait pas tout seul, on est aidé par la cellule d'évaluation de l'université. Donc il y avait une sorte de base de questionnaire auquel on a ajouté quelques questions qui étaient plus spécifiques à ce cours à distance. Ensuite, ça a été envoyé en masse auprès des étudiants pour qu'ils puissent répondre en ligne. On avait un petit bonus pour inciter les étudiants à répondre davantage. C'était la surprise de pouvoir découvrir les scènes coupées de différentes capsules vidéo que notre technicien multimédia avait compilé à mon insu, mais qui était finalement assez sympathique. Et ça a d'ailleurs permis à des étudiants de se rendre compte que tout ça était le résultat d'un travail qui était long, qui impliquait plusieurs personnes, les ingénieurs, les techniciens, etc. Et ce qui a été d'ailleurs souligné dans les évaluations. Certains étudiants ont été heureux d'apprendre qu'on dépensait autant d'énergie pour leur formation. Donc, on a eu un beau retour en termes de nombre, en tout cas de pourcentage de réponses. Et je dois dire que je suis assez content des résultats parce qu'ils étaient non seulement très positifs et ils ont souligné, ils ont été assez précis aussi dans le rendu et de ce qui leur plaisait. Donc, ce qui a été beaucoup apprécié, c'est la définition claire des objectifs et le fait d'avoir des exercices d'auto-positionnement pour voir s'ils ont compris et donc en quelque sorte s'entraîner à la fin pour les examens. Ça a été beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié aussi le fait d'avoir construit quelque chose qui était finalement didactique et assez pratique d'utilisation. Et une autre chose qui a été soulignée aussi, c'est le côté d'avoir été un peu pris en charge, en fait, alors en tout cas d'avoir été suivi alors que je ne les ai pas vus, mais ils ont eu cette impression d'avoir eu cet accompagnement pendant tout le semestre. Alors cet accompagnement s'est fait de différentes manières. Il y avait un forum questions-réponses en asynchrone qui permettait donc aux étudiants de poser des questions et moi d'y répondre quelques heures ou quelques jours plus tard. Donc il fallait juste être un tout petit peu réactif pour ne pas attendre non plus une semaine avant de donner la réponse. Mais donc ça a bien fonctionné. Et puis on a organisé également un temps synchrone en fin de semestre pour des questions plus générales. Et là aussi, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir des questions que je n'avais jamais eues auparavant sur des cours en présentiel parce que les étudiants avaient eu le temps de maturer un peu les cours, des questions qui se posaient. Donc j'ai eu des questions à la fois techniques, précises, parfois pointues ou très pertinentes sur cet enseignement que je n'avais jamais eu auparavant, en fait, parce que pris dans le feu de l'action, les étudiants, enfin c'est normal, ils ne peuvent pas tout de suite poser tout de suite des questions particulièrement pertinentes tout le temps. J'ai beaucoup apprécié cet aspect-là et ça donne aussi finalement un peu plus de... Ça réveille un peu notre cours et on se dit « Ah ben oui, ça c'est peut-être pas tout à fait précis » et ça permet de rectifier un certain nombre d'éléments de langage aussi. Le retour des évaluations permet de corriger un certain nombre d'éléments. On avait beaucoup travaillé en amont, donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient très claires. On a peut-être retravaillé un tout petit peu le design avec parce qu'il y a eu des évolutions sur Selenium. Et j'ai aussi davantage fait, en tout cas prêté attention à un élément que je considérais comme vraiment très, très secondaire, qui était la transcription vidéo, en transcription textuelle des vidéos parfois. Et c'est vrai que d'avoir un sous-titrage ou d'avoir un document qui est le texte de ce qui est dit, en fait, je me suis rendu compte que ça aide énormément les étudiants. Alors, au départ, on se disait, ils prennent des notes comme s'ils étaient en cours. Et en fait, certains m'ont dit, je travaille, j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là. Ils ont le texte, donc ils n'ont pas besoin déjà de passer plein de temps à réécrire le texte. Et ils rajoutent leurs propres notes, voire même des petits schémas à côté de ce texte-là. Donc, quand c'est plutôt bien adapté, en fait, ça aide beaucoup l'étudiant à comprendre et à avancer. Il a l'impression de prendre possession du cours beaucoup plus que s'il devait rien que recopier. Donc ça, du coup, l'année suivante, j'ai refait un peu, j'ai vérifié que toutes les transcriptions étaient bien présentes. Donc ça, c'était un élément qui a été rectifié grâce à, un peu à ces processus d'évaluation sans lesquels je n'aurais pas pu le trouver. La construction d'un cours en FOAD en fait déborde aussi sur les autres cours plus classiques. Tout ce qu'on a appris avec les ingénieurs pédagogiques, on peut aussi le mettre en œuvre très facilement, plus facilement en tout cas, pour définir des objectifs, plus clairement pour dire ce qu'on va évaluer aussi quand on est avec les étudiants en direct. Parce que C'est tellement implicite, parfois on a même l'impression de l'avoir dit, en fait on ne l'a pas dit, mais donc travailler sur, quand on fait de la FOAD, on fait aussi un syllabus, donc on a ce travail à faire également quand on ne fait pas de la FOAD, et c'est très très intéressant de se forcer à écrire un syllabus extrêmement détaillé avant un début de cours. Et ce que j'ai apprécié aussi avec le travail des... avec les ingénieurs pédagogiques, c'est que l'ingénieur pédagogique n'est pas là pour dire ce qu'il faut dire. On reste maître de sa discipline et de ses compétences. Mais ils m'ont beaucoup aidé à exprimer ce que j'avais envie de dire. Et donc, à définir, bon, il y a les objectifs, il y a le syllabus, il y a l'évaluation, et la construction de l'histoire même du cours. Parfois, on fait des chapitres qui se suivent, mais on oublie qu'il y a peut-être une grande histoire dans les petites histoires. Et donc, tout ça fait qu'on reprend de l'intérêt à faire de l'enseignement aussi, parce qu'on a un éclairage un peu plus... en tout cas moins artisanal de l'enseignement tel qu'on a pu l'apprendre, parce que j'ai répété un peu un enseignement que j'avais apprécié de certains de mes enseignants à l'époque, que je trouvais extrêmement pédagogue, et donc je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'aille rechercher. Mais maintenant je peux y mettre des mots un peu plus techniques. En fait, c'est agréable d'avoir aussi finalement des éléments qui sortent de l'ingénierie pédagogique et qui montrent que ça marche ou que ça ne marche pas parfois d'ailleurs. Il y a des expériences qui ne marchent pas et qu'on va mettre de côté, ou il y a des contextes dans lesquels ça ne marche pas parce qu'on a des grands nombres, ou que ça marche parce qu'on a des petits nombres. Donc tout ça est extrêmement éclairant et donne envie d'aller construire des enseignements. Il y a la discipline, mais aussi la forme de l'enseignement ou de l'innovation pédagogique qui n'est pas adaptée en fonction de telle situation, qui va être plutôt adaptée à telle ou telle autre situation. Et ça, c'est grâce au travail que j'ai eu avec les ingénieurs pédagogiques.
On peut collaborer à l'évaluation des enseignements. Par exemple, on peut participer à l'élaboration de questionnaires à la demande de l'enseignant ou du pôle en charge de cette mission. J'aimerais conclure sur le réel besoin de collaboration qui existe entre les ingénieurs et conseillers pédagogiques. Avec les enseignants, avec les formateurs, avec les équipes de production audiovisuelle et multimédia. On travaille tous ensemble à la transformation pédagogique et numérique de l'université. Mais il y a encore un long chemin à parcourir pour stabiliser la place et le rôle de l'ingénieur pédagogique à l'université. Il y a aujourd'hui des enseignants-chercheurs, des associations d'accompagnateurs pédagogiques qui œuvrent en ce sens. Et je pense en disant cela à des auteurs comme Peraya, Lison ou encore Basque. Je pense également à Lanstia, qui a notamment diffusé une enquête sur la place et le rôle de l'ingénieur pédagogique et qui a également travaillé sur un livret qui présente les missions de l'ingénieur. Et puis surtout, il y a cet ouvrage, hein, le vocabulaire de l'ingénieur pédagogique, qui est le fruit de la collaboration entre ingénieurs et conseillers pédagogiques, enseignants, formateurs, et équipe de production audiovisuelle et multimédia. Et ce que j'espère, c'est que cet ouvrage, en fait, permettra d'avoir une meilleure connaissance et reconnaissance du métier.